François, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de retrouver les acteurs, à la fois organisateurs et artistes et publics de ce festival. On a une parenthèse qui nous a paru une éternité, mais quel bonheur d'avoir à nouveau du flamenco au Mont-de-Marsan. Un petit bilan à chaud de ce festival qui nous a quand même enchantés, je l'ai dit, vos retrouvailles et puis un peu d'animation et d'arte à Mont-de-Marsan, François.
Alors le bilan, il est très positif. Il est très positif à plusieurs titres. La vraie inconnue pour nous, finalement, c'était le comportement des publics. Finalement, les choix artistiques, on les assume, les lieux, on les assume, les organisations, on les assume. Mais c'est vrai que le comportement des publics a été pour nous une inconnue jusqu'au dernier moment. Et le public était présent. On pourra parler d'ailleurs d'un spectacle qui est le spectacle d'ouverture, où on a fait patienter le public plus d'une demi-heure hein, pour des questions climatiques. Et le public était vraiment à la fois présent et très, très présent, très sympathique et très attentif. Donc un bilan très positif.
En volume, on peut évaluer déjà l'assistance en fait, qu'on a eue. Est-ce que c'est similaire aux années antérieures ?
Alors non, pour une raison très simple, c'est qu'on était sur une jauge effectivement contrainte, puisqu'on avait arrêté la jauge à 980 personnes, donc un tout petit peu en dessous les 1000 qui imposaient effectivement le pass sanitaire. Ça, c'était un choix que nous avions fait. Alors que la jauge café cantante plus vidéo cantante classique est plutôt autour de 1200. Donc on savait qu'on aurait une fréquentation légèrement inférieure.
Elle a été remplie cette jauge.
Alors globalement oui, avec des spectacles légèrement en deçà. Hein. Classiquement, on avait notamment imaginé, et c'est ce qui s'est passé, que le spectacle de Ricardo Mignot, qui était, bon, on s'en reparlera, fantastique, néanmoins attire un petit peu moins les publics. On a une analyse d'ailleurs là-dessus. Mais globalement, on avait des jauges bien pleines, si ce n'était pas complètement pleine. La bodega, elle était vraiment bien, bien remplie. Ce qui a pu faire la différence, c'est le off au sens large du terme. C'est effectivement l'ensemble de ces propositions dans les cafés qui n'ont pas pu se déployer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a eu, hein, il y a un ensemble de cafés qui ont joué le jeu, mais là effectivement on a eu moins de public. Alors clairement les données publiques précises, je les aurai maintenant à la rentrée, hein, on est en train de compiler ces données, on travaille avec un prestataire qui s'appelle Festic qui effectivement nous analyse après la provenance, la typologie des publics, voilà, etc.
La sociologie des publics, est-ce que le virus a modifié, altéré l'âge notamment des participants?
Alors, moi, l'analyse que j'en ai, mais à nouveau sans éléments chiffrés, c'est qu'on était plutôt sur le public de nos fidèles au niveau effectivement des arènes, puisque là, on a une réservation en fait très tôt. Par contre, sur la partie bodega, moi, j'ai plutôt eu le sentiment d'un public renouvelé, pour le coup beaucoup plus familial. C'est vrai qu'on avait une proposition plus sécurisée, qui a peut-être attiré aussi un public un petit peu différent, peut-être plus mélomane en termes de flamenco, on parlera d'aficionado ou d'aficionada, mais peut-être un public un peu différent effectivement au niveau de la bodega.
Très bien. Et au niveau de l'organisation dans ce contexte particulier, j'imagine que vous avez eu des contraintes spécifiques, ça a dû être très très lourd à monter et à piloter au jour le jour en fait.
Alors l'astuce, qui n'en est pas une d'ailleurs, parce que c'est une méthode de travail, a été de travailler très en amont et très en proximité avec les services de la préfecture et les services de l'État, puisqu'on avait la convergence en fait sanitaire, mais il ne faut pas oublier le maintien de Vigipirate. Et il y a beaucoup d'ailleurs de dispositions, je pense aux grilles, je pense à certains plots que vous avez vu encore apparaître, ils n'étaient pas liés à la crise sanitaire, ils étaient liés à Vigipirate. Donc on avait vraiment la convergence de ces deux éléments, et on a eu plusieurs espaces de travail en préfecture, déclinés par des espaces de travail plus techniques, qui nous ont permis effectivement de stabiliser un format. Ceci dit, je dirais que 3 semaines encore avant le festival, avec l'évolution des normes sanitaires, et vous voyez, là elles évoluent encore d'ailleurs, hein, donc c'est-à-dire que les responsables de festival travaillent en temps réel, 3 semaines encore, on hésitait sur certains formats, et je vais vous donner l'exemple sans doute le plus marquant, c'était le positionnement de la bodega. hein, puisque 3 semaines encore avant, effectivement, on hésitait sur un positionnement de la Bodega Plus en centre-ville pour maintenir un lien avec les cafetiers. Et c'est le travail avec la préfecture qui nous a fait effectivement choisir ce rassemblement de l'ensemble. Je rajouterai les stages aussi dont on n'a pas parlé, hein, qui, où on avait une offre de stage un peu plus réduite, mais qui s'est bien passé et qui était là effectivement également près des arènes.
Vous évoquez les lieux, on peut en parler tout de suite en fait. Bon, à titre personnel, juste un avis, cette bodega proche des arènes, dans ce cadre-là, offrait un confort à la fois aux artistes et au public d'écoute, de vision, qu'on n'a pas d'habitude effectivement quand la bodega est recentrée place de la mairie, où là on a beaucoup de parasites sonores et un public certes qui peut s'initier au flamenco, mais qui respecte assez peu la scène finalement.
Alors je pense que l'expérience que nous avons vécue a été vraiment une expérience aussi pour l'équipe, pour les publics, puisque c'est la première fois finalement qu'ils vivaient le festival en 33 années, c'est pas rien quand même. Hein. On avait testé tous les lieux finalement imaginables, Nahuc, les bords de Midouze, enfin je ne veux pas reprendre l'ensemble des lieux qu'on a testés, on les a tous testés, sauf celui-là. Donc c'est vrai que c'était une expérience tout à fait spécifique. Je pense qu'on a tous été séduits par plusieurs choses. L'ampleur du lieu, une impression de respiration hein, quand même, aussi bien en termes de positionnement, alors qu'il était renforcé en plus par, je dirais pas la distanciation, mais le fait qu'on ait contingenté les publics, mais quand même une sensation de respiration. La dimension patrimoniale du lieu, hein, c'est une question qui a été posée régulièrement aux artistes finalement, qu'est-ce que ça leur faisait en tant qu'artiste flamenco d'être dans un lieu tauromachique. Bon, beaucoup ont quand même dit leur émotion, voire même, je pense à Raphaël Grichieni qui a même dit à un moment qu'il était très, très impressionné de savoir s'il allait même pouvoir, entre guillemets, remplir musicalement ce lieu. Donc c'est certain que c'est une configuration qui nous a tous marqués, qui nous a tous percutés. Après, on sait ce qu'on gagne, on sait ce qu'on perd.
On perd en sécurité pour l'organisateur, parce que le spectacle est soumis aux aléas météorologiques.
Alors, voilà, le premier élément, et on l'a vécu quand même fortement à l'ouverture, un spectacle sur 5 jours, vous commencez à annuler une soirée, 2 soirées, 3 soirées, même si évidemment on a pris des assurances spécifiques, ce qui n'était pas le cas les autres années. Là, on s'était effectivement doté d'une assurance spécifique. Bon, néanmoins, il y a un risque effectivement qui est très très important. Et on a failli le vivre malheureusement. Il y a un élément public également, c'est quand même la déconnexion relative. Alors je dis relative, Mont-Marsan, c'est pas, voilà, c'est pas non plus une métropole internationale. Donc on a vite fait de rattraper le centre-ville en 5-10 minutes à pied. Bon, néanmoins, il y a une déconnexion avec le centre-ville qu'on ne peut pas négliger. Et puis il y a les fervents de tout. Hein. Il y a les fervents de tout. Il y a les fervents, comme toi François, effectivement, d'une approche que j'appelais plus mélomane, c'est-à-dire qui va favoriser une écoute plus posée, plus attentive et sans doute plus respectueuse des artistes. Et puis il y en a qui préfèrent une dimension plus festive, plus croisée, plus chaleureuse, j'allais dire, quelque part, qui plaiderait plutôt effectivement sur une approche en centre-ville. Je dirais que cette expérience, elle a été menée. Les arènes font partie maintenant, et cette configuration de la banette qui est à notre disposition. Donc nous, on est plutôt dans l'esprit l'année prochaine de retrouver la configuration initiale, mais on n'oubliera pas cette expérience-là et on la réactivera si besoin, et ça c'est certain.
Y en la maruga del puente ya me hice atrever viento. A ver si se atreve el viento a soplarle la velita que ha asado Rafael enciendo.
Nous avons appris que le conseil départemental s'armait sur un plan administratif encore davantage pour sécuriser l'organisation et anticiper sur les prochaines éditions. Vous avez créé donc un établissement public administratif qui vient piloter maintenant la direction du festival à partir de cette année.
Oui, alors ça c'est un peu la révolution silencieuse finalement du festival, puisque c'est quelque chose qui est relativement invisible de la part du public, enfin un public qui assistait cette année au festival, ne pouvait pas prendre la mesure de la création de ces structures. Donc la création de ces structures, elle est clairement orientée autour de plusieurs objectifs. Il y a un objectif d'autonomisation qui est important, c'est-à-dire qu'on a eu conscience qu'à ce niveau de développement du festival, on avait besoin de disposer d'une structure juridique, effectivement plus autonome, plus dynamique. Beaucoup de festivals, je dirais que la plupart des festivals sont organisés sous forme associative, hein, qui offrent cette souplesse-là. Nous, on a opté effectivement pour un établissement public, une forme un peu hybride finalement. Un juriste serait là, il me sauterait sans doute au cou, mais je dirais qu'il y a à la fois entre la souplesse associative, mais le lien avec la collectivité. Et ça assure effectivement une présence beaucoup plus active, non seulement du département, mais également de la commune et de l'agglomération. L'autre enjeu, il est effectivement de pouvoir assurer, et on ne va pas se le cacher, des financements complémentaires, être plus dynamique sur la recherche de mécénat, être plus dynamique sur la recherche de partenariats. Et le troisième, il est sur l'impulsion, on va dire, à donner. L'expérience de 15 ans, on va dire, de direction générale de ce festival montre qu'il faut y consacrer de plus en plus de temps. Incontestablement, c'est de plus en plus de temps, notamment sur deux champs qui sont la coproduction et le soutien à la création. Et ça, ça nécessite une anticipation. L'établissement public va permettre de travailler 2-3 ans à l'avance, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui en termes de collectivité. En tout cas, on est beaucoup plus contraints. Ça nécessite effectivement un niveau d'échange et un niveau d'engagement beaucoup plus fort auprès des grands festivals qui sont démultipliés aujourd'hui au niveau international. Et donc là, effectivement, ça va nous amener à recruter une nouvelle direction. Alors, non pas direction artistique, et ça, on verra effectivement le compagnonnage qui se poursuit avec Sandrine, mais en direction générale. Donc là, on va être en phase, à la rentrée, de recrutement d'une nouvelle direction pour le festival.
D'accord. Et dans ce contexte-là, question très personnelle, que devient François Baudron alors ?
Alors François Baudron, il a une large bannette qui s'appelle directeur de la culture et du patrimoine, avec 4 services et des projets très forts. Alors je peux en dire un mot, c'est pas les projets de François Baudron, c'est les projets de la collectivité et de l'élu.
Je crois que vous avez 80 personnes.
Alors près de 100 agents.
Vous avez encore augmenté.
Près de 100 agents, et c'est surtout des gros projets. Alors je peux en citer 3 hein, qui vont être très très forts sur l'année 21. La création d'un pôle cinéma, hein, d'un pôle image effectivement sur l'agglomération de Dax. On vient d'acquérir les mètres carrés, donc c'est quelque chose qui va être très important. Une réflexion sur la création et la transposition du musée de Saint-Mandé en centre-bourg. Donc peut-être la construction d'un nouveau musée dans les 4 à 5 ans qui viennent, qui est quand même un gros gros projet. Et un énorme projet patrimonial, touristique, autour du binôme des abbayes Sordes et Artus, qui jusqu'ici vivait effectivement de façon autonome. Donc des gros gros chantiers.
Est-ce qu'il y a déjà eu de la communication sur ces gros projet-là, en fait ?
Alors, ce sont des sujets qui sont quand même relativement internes, effectivement, puisqu'ils ont été aujourd'hui encore travaillés dans des phases comité de pilotage, comité technique, cabinet d'études. On est encore dans ces phases-là.
Donc, c'est un vrai scoop que vous offrez à Radio MDM ce matin, François.
On va dire tout à fait ça, sachant que le pôle image, je pense que tous les passionnés de cinéma étaient déjà informés, puisqu'on a créé un bureau d'accueil de tournage. On a déjà une association qui s'appelle Du cinéma plein monde cartable. Et donc, ce pôle, effectivement, image, va être créé par le regroupement de ces deux structures. Et puis, au niveau, effectivement, du musée de Saint-Mandé et au niveau du pôle Artus et Sordes, sont des éléments qui sont déjà bien repérés, je pense, au niveau des territoires. Mais c'est vrai qu'on n'a pas communiqué largement sur ces sujets.
Revenons, si vous le voulez bien, pour conclure sur le cœur de Arte Flamenco. J'imagine que vous avez vibré, comme le public, sur les spectacles. Qu'est-ce que vous retenez en show, entre guillemets, phare de cette édition, François ?
Alors là, c'est François Baudron, spectateur, hein, qui va s'exprimer, je dirais qu'en tant que directeur du festival, directeur général. Alors, en co-direction marquée avec Lionel, hein, cette année, vous l'avez vu, hein, Lionel Wieski, qui est directeur de la communication, s'est très très fortement engagé sur l'édition de cette année avec moi. Je dirais que la programmation, on l'avait pensé très très finement avec Sandrine, vraiment m'a satisfaite. Après, à titre personnel, moi j'extrairai 3 expériences, et je dis bien expérience. Je vais commencer par Rocío Molina. Alors Rocío Molina, ça a été une grande émotion pour moi, presque personnelle, puisqu'on avait accueilli Rocío Molina il y a une dizaine d'années, je n'ai pas regardé la date exacte, 10-12 ans, à un moment où sa carrière était plutôt en phase de démarrage. Donc retrouver Rocío Molina après toutes ces années, en binôme avec Raphaël Riqueni. Alors pareil, Raphaël Riqueni, c'était un peu l'Arlésienne pour le département. Ça fait plusieurs années qu'on en parlait, qu'on essayait, on avait été obligé d'annuler sa venue, parce que c'est quelqu'un qui a... Je vais le mettre au passé,
j'espère. Connu quelques vicissitudes un peu douloureuses.
Qui a connu quelques problèmes de santé. Ça a été vraiment une très grande émotion. Après, j'y ai vu deux magnifiques artistes. J'y ai vu une écriture chorégraphique remarquable. J'y ai vu une pureté et une épure à laquelle je suis toujours sensible dans tous les domaines, que ce soit le domaine du cinéma, des arts plastiques ou du spectacle vivant. Donc j'étais personnellement tout à fait emballé par ce spectacle, alors qu'il a pu dérouter certaines personnes.
On est bien au-delà du flamenco, c'est de la danse contemporaine, on est même dans l'avant-garde de la création chorégraphique.
Alors on était très très flamenco, parce que Riquenier était là pour poser ses bases là, dans la gestuelle et on va dire dans les fondamentaux de Rossio, il n'y a pas de doute. Moi, je pense notamment au tout début du spectacle, hein, quand elle s'anime avec la guitare, on sent vraiment que chaque note de guitare vient animer son geste. Bon, on sent une sorte de structuration comme ça de la phrasologie, j'allais dire flamenca, qui se met en place. Après, oui, clairement, ça fait partie de ces artistes qui vont chercher ailleurs, qui vont chercher dans une théâtralisation, peut-être même dans le mime, peut-être même sans doute dans d'autres domaines, dans le cinéma. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de références. Je mettrai en deux Ricardo Mignot. Alors ça a été une vraie découverte pour moi, hein. C'est pas la première fois qu'on programmait effectivement du piano. Je pensais pas avoir ce choc esthétique. Sans doute dû à un niveau d'interprétation tout à fait hors norme. Alors pareil, hein, on sait d'où il part, on sait où il est, et on voit qu'il part très très loin. Alors chacun avec nos références musicales, alors évidemment beaucoup de jazz, hein, dans les oreilles, mais pareil, musique du XXe siècle, sans doute quelques références contemporaines et également. Un niveau d'engagement, un niveau de don tout à fait remarquable.
Mignot, en fait, n'est pas un pianiste extérieur à l'instrument, oui. Il rentre dans son instrument, oui. Oui. Et c'est vrai qu'il y a cette fusion absolument géniale, mais on reconnaît les palos, oui, du flamenco, c'est-à-dire on reconnaît parfaitement une solea, une sigilia, mais on a des citations de Jarrett, on a de l'exarda de Liszt, on a les polonaises de Chopin, toute la musique impressionniste, enfin c'est fantastique. Et juste une petite appréciation personnelle, j'ai vu énormément de virtuoses sur toutes les scènes du monde, dans tous les domaines possibles de la musique, tous les champs. Mignot, c'est peut-être le virtuose qui techniquement, musicalement, m'a le plus impressionné à titre personnel. Alors, j'avais vu Keith Jarrett, j'en ai vu des immenses, mais vraiment lui m'a mis une claque.
Alors il a une façon de rentrer dans le piano, pense que c'est ce que tu exprimes, qui est très particulière. Il a un jeu très profond, très centré sur les graves et les médiums. Effectivement, il va relativement peu dans les aigus, qui s'est développé parfois, et ça donne une forme de douceur et d'envolée, mais il est vraiment centré, il a vraiment un piano centré sur la rythmique, sur les graves, sur les médiums. Il est intervenu de façon un peu contemporaine, d'ailleurs un peu également sur ses cordes, hein, comme le font souvent maintenant les pianistes. Donc c'est un pianiste très engagé, j'allais dire, hein, et qui est vraiment dans la matière sonore. J'ai pas trop regardé, mais je crois que c'était un Steinway qu'il avait. Je crois qu'il avait demandé un Steinway. Donc en plus, il avait vraiment un piano de concert particulièrement. Alors juste petite anecdote d'ailleurs, j'ai pas demandé pourquoi. Il avait demandé un accord un peu haut, bizarrement, puisqu'il avait demandé. Alors c'est un peu technique, mais les musiciens comprendront, à 444. C'était peut-être dû au fait justement qu'il jouait déjà beaucoup beaucoup dans les graves, donc il avait demandé un diapason un petit peu haut.
Je pense que ça crée une tension qui est réclamée, ouais, par le flamenco. Certains guitaristes s'accordent différemment et il doit prendre en compte aussi la tessiture de ses chanteurs.
Voilà, et je mettrai Pelé, hein, bon, que je connais pas mal finalement maintenant, parce que j'ai quand même eu l'opportunité, alors déjà moi, de le découvrir. Alors j'y réfléchissais, ça fait un peu grand voyageur, mais pas du tout, hein. Je sais plus trop si je l'ai vu à Séville ou ailleurs en Espagne, mais c'est pas très grave. Je l'avais vu dans le cadre d'un spectacle dans lequel il avait une partie. Enfin, c'était pas un spectacle en solo, c'était ce qu'on appelle un gala en Espagne, c'est où des grands chanteurs ou des grands musiciens ont une partie. Et je me rappelle que le timbre de sa voix à l'époque, d'ailleurs, et sa présence m'avait marqué. On l'a reprogrammé entre-temps. Et là, effectivement, il était vraiment mis pleinement en valeur. Et c'est vraiment LP, là. Hein. L'ensemble, on va dire, bon, vous savez qu'on a eu un petit aléa de programmation qui a un petit peu peut-être bousculé les équilibres qu'avait imaginé Sandrine au départ. Mais je veux dire, là, Pelé, il a été vraiment d'une présence et d'une voix magnifique. Donc voilà un petit peu mon trio personnel, mais qui n'invalide évidemment rien l'excellence du spectacle d'ouverture. D'ailleurs, c'est pour le coup, c'est de Carrasco. Et puis effectivement, notre spectacle, on va dire vraiment Puro, Ritano, là, effectivement, qui a également enchanté de nombreux publics. Hein.
Alors, LPL, les Carrasco, on voit beaucoup d'artistes qui viennent, qui reviennent, qui re-reviennent à Mont-de-Marsan. Quid de l'avenir ? J'ai vu qu'on avait en résidence Patricia Guerrero, qui va remonter sur scène l'année prochaine, qu'on a beaucoup vu aussi. Ouais. Est-ce que le festival va ouvrir un petit peu à d'autres artistes ? Il y a des propositions très intéressantes dans d'autres régions, dans d'autres contextes.
Alors là, on est vraiment dans le cadre du nouvel établissement public. C'est-à-dire que quand je parle effectivement de soutien à la création, quand je parle de coproduction, alors coproduction, peut-être que c'est un sujet qui est peu connu du grand public, c'est-à-dire qu'on cofinance finalement, on choisit un artiste et on monte une production à 2, 3, 4, 5. Je dirais obligatoirement, ces éléments-là vont nous amener à nous réfléchir différemment, à nous projeter dans le temps. C'est vrai que la dimension aussi d'être plus impliqué dans la jeune création, dans la découverte, c'est peut-être des sujets sur lesquels il faut qu'on soit à nouveau, j'allais dire plus actif, on a été peut-être plus présent à un moment et sur lequel on a perdu un peu la main. Tout va être une question d'équilibre. Je pense que le fait que le festival soit resté aussi très flamenco est un élément important. La démultiplication des programmations flamenco et des festivals, je mets exprès des guillemets là visuellement, flamenco, fait qu'il faut, je pense, que nous gardions une identité néanmoins très très forte. 33 ans d'histoire, voilà, ça ne se réinvente pas comme ça. Voilà, néanmoins...
L'identité flamenca, elle est acquise.
Alors elle est acquise parce que nous l'avons tenue. Parce que nous l'avons tenu, c'est un débat interne, hein, effectivement, chaque année, sur effectivement les éléments d'équilibre ou entre guillemets de déséquilibre. Sachant que, François, il ne faut pas du tout négliger que le flamenco et que le festival, surtout, n'est pas que d'habitude le Café Cantante ou les arènes. Il ne faut pas oublier la Bodega, qui monte en gamme quand même très régulièrement, sur lequel on a des propositions beaucoup plus alternatives. Et il ne faut pas oublier le Café Musique. Qui lui effectivement est notre espace, je dirais, d'inventivité totale. Donc c'est vraiment cet ensemble-là, et on l'a vraiment pensé comme ça. C'est, on s'est dit, justement, ayant la Bodega et des partenariats possibles avec le Café Musique ou d'autres, on peut rester sur un flamenco finalement assez classique, assez pour aux arènes. Mais tout ça évolue, hein, tout ça bouge. Et c'est les flamencos qui vont nous faire bouger aussi.
Parfait. Oui, mais bien sûr. Revenons au cœur du sujet.
Eux, ils n'ont pas de limite.
Bien sûr.
Et on l'a vu avec un Mignot. Bon, Mignot, on aurait pu lui demander quelque chose. Lui, il est dans son univers. On l'a vu avec Rocio Molina. Donc, c'est les artistes eux-mêmes qui vont aller chercher, qui vont aller piocher. Et leurs références ne manquent pas.
Alors, ultime question très personnelle pour veiller à ces équilibres très subtils. L'année prochaine, François Boisdron sera encore là. Il pourra peut-être nous présenter la prochaine édition.
Alors, pour l'année prochaine, clairement, nouvelle direction générale. Ça, je l'ai annoncé tout à l'heure. Je vais rester effectivement très proche du festival. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les équipes qui vont faire le festival sont des équipes que j'ai recrutées. Donc, quelque part, je vais rester en lien très, très fort. Et puis, il y a un autre sujet, surtout. C'est qu'une des grandes orientations du festival, c'est tous les éléments de renouvellement, coproduction, création, mais c'est le développement territorial. Et ça veut dire que le festival, ce qu'on avait tenté cette année, cette année 2021, qu'on a été obligé aussi d'annuler, on a eu deux phases d'annulation pour le festival, ça a été très dur, le festival et les rendez-vous, c'est qu'on aura maintenant des rendez-vous flamenco qui vont être effectivement déployés sur le territoire, et donc, a priori, l'automne ou dans l'année, on aura des rendez-vous flamenco. Et là, le territoire, c'est la direction de la culture et du patrimoine. Donc, on sera obligatoirement en dialogue sur les éléments de programmation qui se développeront à l'année.
Ça, c'est très bien de mettre des repères chronologiques et effectivement dans l'espace pour à la fois créer de la fission et puis créer de l'attente pour cette grande semaine qu'on vit toujours au cœur de l'été montois. Eh bien, merci pour tous ces éléments, François, et puis on vous souhaite le meilleur pour la prochaine édition et les suivantes.
Merci à toute l'équipe.